Chapitre 6. On attend les tantes et les oncles. On était à la semaine de Pâques, et les gâteaux au fromage de Madame Taleva étaient plus délicatement légers qu'à l'ordinaire. Une bouffée de vent les enlèverait comme des plumes, disait Kizia la domestique, se sentant fière de servir sous une maîtresse qui savait faire de telles pâtisseries. Aussi, nulle raison ou circonstance n'aurait pu être plus favorable à une réunion de famille. Même s'il n'eût pas été convenable de consulter Sir Glegg et Sir Pallet sur le projet d'envoyer Tom en pension. « J'aimerais tout autant ne pas inviter ma sœur Dean cette fois, » dit Madame Taleva, « car elle est aussi jalouse et avare que possible, et cherche toujours à déprécier mes enfants aux yeux de leurs oncles et de leurs tantes. »« Si, si, » dit Monsieur Taleva, « engage-la à venir. C'est à peine si j'attrape un mot de conversation avec Dean à présent. Nous ne l'avons pas eue ici depuis 6 mois. » Qu'importe ce qu'elle peut dire, mes enfants ne doivent rien à personne. Voilà ce que vous dites toujours, monsieur Taleva, mais je suis sûr qu'il n'y a de votre côté personne, ni oncle ni tante, qui leur laisse seulement un billet de 5 livres en héritage. Tandis que sœur Glegg et sœur Pallet économisent de l'argent comme personne ne peut le savoir, car elles mettent de côté tous leurs intérêts et aussi leur argent de poche. Les maris achètent tout. Madame Taleva était une femme douce, mais même une brebis vous tiendra tête quand elle a des agneaux. « Bah !» dit Monsieur Taleva, « il faut une grâce miche quand il y a tant de monde à déjeuner. Que signifient les petites réserves d'argent de tes sœurs, lorsqu'elles ont une demi-douzaine de neveux et de nièces pour les partager? Et ta sœur Dean ne les amènera pas à tout laisser à une seule tête, je suppose, pour qu'on leur en fasse honte après leur mort. Je ne sais trop ce qu'elle pourrait les amener à faire. Mes enfants sont si gauches avec leurs oncles et leurs tantes. Maggie est 10 fois plus méchante les jours où ils viennent, et Tom ne les aime pas, que Dieu le protège, quoique ce soit plus naturel chez un garçon que chez une fille. Et cette Lucy Dean est une si bonne enfant. Vous pouvez l'asseoir sur un tabouret, et elle y restera 1 heure de suite sans demander à en bouger. Je ne puis m'empêcher d'aimer cet enfant comme si elle était à moi. Je suis sûr qu'elle semble être beaucoup plus ma fille que celle de sœur Dean, car elle a toujours eu un très pauvre teint pour quelqu'un de notre famille, sœur Dean. Bien, bien, si tu aimes l'enfant, prie le père et la mère de l'amener avec eux. Et n'inviteras-tu pas aussi l'oncle et la tante Moss et quelques-uns de leurs enfants? Oh, vraiment, monsieur Taleva, mais cela ferait 8 personnes sans compter les enfants, et il faudrait mettre 2 rallonges à la table. » De plus, il me faudra descendre beaucoup de choses pour le service du dîner. Puis, vous savez aussi bien que moi que votre sœur et mes sœurs ne vont pas bien ensemble. Bien, bien, fais comme tu voudras, Bessie, dit M. Taleva, en prenant son chapeau et en sortant pour aller au moulin. Peu de femmes sont plus soumises que ne l'était Mme Taleva sur tous les points qui ne se rattachaient pas à ses relations de famille. Mais elle avait été une Miss Dodson, et les Dodson étaient une famille vraiment très respectable, aussi considérée qu'aucune autre dans leur paroisse ou dans celle d'à côté. On avait toujours trouvé que les Miss Dodson tenaient la tête très haut, et personne n'était surpris que les 2 aînés se fussent si bien mariés, non pas de bonheur, car ce n'était pas l'usage chez les Dodson. Il y avait dans cette famille des manières particulières de faire chaque chose, soit pour blanchir le linge, soit pour faire le vin de primevère, pour préparer les jambons ou pour conserver les groseilles en bouteille. En sorte qu'aucune fille de cette maison ne pouvait être indifférente au privilège d'être née une Dodson, plutôt qu'une Gibson ou une Watson. Les funérailles avaient toujours lieu avec une convenance exemplaire dans la famille Dodson. Les crêpes de chapeau n'avaient jamais une teinte bleuâtre, les gants n'avaient pas de déchirure au pouce, chacun portait exactement le deuil qu'il devait avoir, et on avait toujours des écharpes pour les porteurs. Quand quelqu'un de la famille était dans l'affliction ou la maladie, tous les autres allaient visiter cet infortuné parent, ordinairement tous à la fois, et personne ne redoutait de lui faire entendre les vérités les plus désagréables, dictées par le pur intérêt de la famille. Si la maladie ou le malheur provenait de la propre faute de l'affligé, ce n'était pas l'usage chez les Dodson de le lui laisser ignorer. Bref, il y avait dans cette famille une tradition particulière quant à la manière convenable de diriger un ménage ou de se conduire dans la société, et le seul désagrément qui s'attacha à cette supériorité était une pénible impossibilité d'approuver les mets ou la conduite de ceux que ne gouvernait pas la tradition Dodson. Une Dodson, quand elle se trouvait dans une maison étrangère, mangeait toujours du pain sec avec son thé, n'ayant point de confiance dans le beurre, et se refusait toute espèce de confiture, pensant qu'elles avaient probablement commencé à fermenter par le manque de sucre ou de cuisson convenable. Certains des Dodson avaient moins ce caractère de famille que d'autres, cela pouvait s'admettre, mais pour peu qu'ils fussent alliés à la famille, ils valaient certainement mieux que ceux qui ne l'étaient pas. Il est à remarquer que tandis qu'aucun Dodson n'était satisfait d'un autre Dodson, chaque Dodson l'était de lui-même et des Dodson collectivement. Le plus faible membre d'une famille, le membre qui a le moins de caractère, est souvent le plus complet résumé des habitudes et traditions de cette famille. Et Madame Taleva était une complète Dodson, quoique très douce. De même que de la petite bière, aussi longtemps qu'elle dure, ne peut jamais s'appeler que de la très faible petite bière. Et quoiqu'elle eût un peu gémi dans sa jeunesse sous le joug de ses sœurs aînées, et qu'elle versât encore quelquefois des larmes à leurs reproches fraternels, Madame Taleva n'était pas femme à innover en idée de famille. Elle était reconnaissante d'être née Dodson et d'avoir un enfant qui tenait de sa famille à elle, au moins par les traits et le teint, par son goût pour le sel et les fèves, chose que M. Taleva n'aimait pas. À d'autres égards, le caractère Dodson était en partie à l'état latent chez Tom, et il était tout aussi loin d'apprécier sa parenté du côté de sa mère que Maggie elle-même, se cachant généralement pour la journée avec une bonne provision de vivres, quand il recevait à temps l'avertissement que ses tantes et ses oncles allaient arriver. Symptôme moral duquel sa tante Glegg déduisait les plus sombres pronostics pour l'avenir. Il était vraiment très pénible pour Maggie que Tom s'esquiva toujours, sans la mettre dans le secret. Mais le sexe le plus faible est reconnu pour être un obstacle sérieux en cas de fuite. Le mercredi, jour avant l'arrivée des oncles et des tantes, il y eut dans la maison de tels parfums variés et révélateurs de gâteaux au four et de gelées chaudes mêlées à l'arôme des jus de viande, qu'il était impossible de s'attrister complètement. Tom et Maggie firent quelques irruptions dans la cuisine, et, comme les autres maraudeurs, ne se décidèrent à s'en tenir éloignés pendant quelque temps qu'avec la permission d'emporter une quantité suffisante de ce qu'il y avait de bon. « Tom, » dit Maggie, comme ils étaient assis sur les branches traînantes du grand sureau, à manger leur soufflet à la marmelade, « comptes-tu te sauver demain ?»« Non, » dit Tom lentement, quand il eut fini son soufflet et en regardant le troisième qu'il devait partager entre eux. « Non. »« Pourquoi, Tom ? Est-ce parce que Lucy vient ?»« Non, » dit Tom, en ouvrant son couteau de poche et le posant sur le soufflet, la tête penchée de côté d'un air de doute. C'était un problème difficile que de diviser ce polygone très irrégulier en deux parties égales. « Que me fait Lucy ? Ce n'est qu'une fille, elle ne peut pas jouer à la balle. »« Est-ce du gâteau au rhum ?» dit Maggie, en exerçant sa sagacité, tout en se penchant en avant vers Tom, les yeux fixés sur le couteau levé. « Non, petite sotte, celui-là sera bon le lendemain. »« Il y aura aussi du pudding. »« Je sais quel pudding ce sera. Des abricots roulés dans la pâte, ma foi. » Avec cette interjection, le couteau descendit sur le soufflet qui fut partagé. Mais le résultat ne fut pas satisfaisant pour Tom, car il regardait encore les moitiés d'un air de doute. Enfin, il dit « Ferme les yeux, Maggie. » « Pourquoi ? » ?»« Ne t'en inquiète pas. Ferme les yeux quand je te le dis. » Maggie obéit. « À présent, lequel veux-tu, Maggie ? Main droite ou main gauche ?»« Je veux celui où la marmelade est sortie, » dit Maggie, gardant les yeux fermés pour plaire à Tom. « Mais ce n'est pas cela, Nigaud. Tu pourras l'avoir s'il t'échoit loyalement, mais je ne te le donnerai pas sans cela. Droite ou gauche, choisis à présent. » « Ah, ah, ah !» dit Tom d'un ton d'exaspération, comme Maggie regardait. « Tiens les yeux fermés, te dis-je, ou bien tu n'en auras point. » La force de sacrifice chez Maggie ne s'étendait pas jusque-là, et peut-être s'inquiétait-elle moins de voir la plus grosse part échoir à Tom que de le contenter en lui donnant le meilleur morceau. Aussi ferma-t-elle tout à fait les yeux, jusqu'à ce que Tom lui dit de dire laquelle, puis elle dit « la main gauche ». « C'est toi qui l'as, » dit Tom d'un ton presque fâché. Quoi, le morceau où la marmelade est sortie ? Non, le voilà, prends-le, dit Tom avec fermeté, en tendant résolument le meilleur morceau à Maggie. Oh, s'il te plaît, Tom, prends-le. Ça ne me fait rien, j'aime autant l'autre, je t'en prie, prends celui-ci. Non, je ne veux pas, dit Tom d'un air presque irrité, en attaquant son propre morceau de qualité inférieure. Maggie, pensant qu'il ne servirait à rien de contester plus longtemps, commença aussi à manger sa moitié de soufflé, avec grand plaisir et très promptement. Mais Tom eut fini le premier et dut regarder Maggie, qui avait encore une ou deux bouchées, tandis qu'il se sentait capable d'en avaler davantage. Maggie ne savait pas que Tom la regardait. Elle se balançait sur le vieux sureau, complètement absorbée dans une vague sensation de repos et de marmelade. « Oh, la gloutonne !» dit Tom, quand elle eut avalé le dernier morceau. Il avait la conscience de s'être conduit avec beaucoup de loyauté, et trouvait qu'elle aurait dû le remarquer et lui en tenir compte. D'avance, il aurait refusé une partie de la portion de Maggie, mais on voit naturellement d'un point de vue différent avant ou après avoir avalé sa propre part de pâtisserie. Maggie devint tout à fait pâle. « Oh, Tom, pourquoi ne me l'as-tu pas demandé ?»« Ce n'était pas à moi à te le demander, gourmande. Tu aurais pu y penser sans ça, quand tu savais que je t'avais donné le meilleur morceau. » « Mais j'ai voulu te le donner, tu le sais bien, » dit Maggie d'un ton blessé. « Oui, mais je n'aurais pas fait ce qui n'était pas de bonne foi, comme fait Spencer. Il prend toujours le meilleur morceau si vous ne le vexez à cause de ça. Et si, les yeux fermés, vous choisissez le meilleur, il change de main. Mais si je partage, je veux qu'on soit loyal. Seulement, je ne voudrais pas être un glouton. » Avec ce mordant avis indirect, Tom sauta en bas de sa branche et lança une pierre avec un « ohé » en forme d'attention amicale à Yap, qui avait aussi regardé disparaître les vivres avec une agitation d'oreille et des sentiments qui ne devaient point être exempts d'amertume. Cependant, l'excellent chien accepta l'attention de Tom avec autant d'allégresse que si on l'avait traité très généreusement. Mais Maggie, douée de cette puissance supérieure de sentir le malheur, qui distingue l'être humain et le place à une distance honorable, même du très mélancolique chimpanzé, resta immobile sur sa branche et s'abandonna au vif mécontentement d'un reproche non mérité. Elle aurait donné le monde pour n'avoir pas mangé tout son soufflet et en avoir conservé un peu pour Tom. Non que le soufflet ne fût très bon. Le palais de Maggie n'était point oblitéré, mais elle s'en serait passée 100 fois plutôt que d'entendre Tom l'appeler gourmande et de le voir fâché contre elle. Il avait dit pourtant qu'il ne le voulait pas. Elle l'avait mangé sans y penser. Qui pouvait-elle? Ses larmes coulaient si abondamment qu'elle ne vit rien de ce qui l'environnait pendant les 10 minutes suivantes. Mais alors le ressentiment fit place au désir de réconciliation, et elle sauta de sa branche pour chercher Tom. Il n'était plus dans l'enclos derrière la cour des meules. Où pouvait-il être allé avec Yap? Maggie courut vers le banc élevé contre le grand hou. De là, elle pouvait voir très bien du côté de la flosse. Tom s'y trouvait effectivement, mais le cœur de la pauvre enfant défaillit de nouveau en voyant qu'il était déjà si éloigné sur la route vers la grande rivière et qu'il avait un autre compagnon, outre Yap, le méchant Bob Jakin, dont la fonction officielle, sinon naturelle, d'effrayer les oiseaux, était dans un moment de chômage. Maggie était sûre que Bob était méchant, sans avoir de raison positive pour le croire. À moins que ce ne fût parce que la mère de Bob était une femme horriblement grasse, qui demeurait dans une singulière maison ronde vers le bas de la rivière. Une fois que Maggie et Tom avaient erré jusque-là, il en était sorti un chien zébré qui ne cessait d'aboyer. Et quand la mère de Bob sortit aussi et cria plus fort que le chien, pour leur dire de ne pas en avoir peur, Maggie crut qu'elle les invectivait et son cœur battit de frayeur. Maggie pensait que fort probablement cette maison ronde était remplie de serpents rampant sur les planchers et de chauves-souris errant dans les chambres à coucher, car elle avait vu Bob ôter sa casquette et montrer à Tom un petit serpent qui était dedans. Et une autre fois, il avait la main pleine de petites chauves-souris. En tout cas, il avait à ses yeux un caractère irrégulier, peut-être même un peu diabolique, à en juger par son intimité avec les serpents et les chauves-souris. Et pour mettre le comble à tout cela, quand Tom avait Bob pour compagnon, il ne s'inquiétait plus de Maggie et ne voulait pas la laisser venir avec lui. Il faut avouer que Tom aimait la société de Bob. Comment aurait-il pu en être autrement? Bob, dès qu'il voyait un œuf d'oiseau, savait immédiatement si c'était celui d'une hirondelle, d'une mésange ou d'un bruant. Il découvrait tous les nids de guêpes et savait établir toutes sortes de pièges. Il grimpait aux arbres comme un écureuil et avait un pouvoir tout à fait merveilleux pour découvrir les hérissons et les furets. Il avait même le courage de faire des choses qui étaient très mal, comme de percer des trous dans les haies, de jeter des pierres aux moutons et de tuer un chat errant incognito. De telles dispositions chez un inférieur, qui pouvait toujours être traité avec autorité, malgré ses connaissances remarquables, avait nécessairement une fascination fatale pour Tom. Et à toutes les vacances, Maggie était sûre d'avoir des journées de chagrin parce qu'il était allé avec Bob. Eh bien, il n'y avait plus d'espoir. Il était parti maintenant, et Maggie ne put penser à aucune autre consolation qu'à s'asseoir près du hou ou à errer le long des haies, s'amusant à reconstruire son petit monde tel qu'elle aurait aimé qu'il fût. La vie de Maggie était agitée, et cette douce rêverie pouvait seule la calmer. Pendant ce temps, Tom, oubliant tout ce qui concernait sa sœur et l'aiguillon du reproche qu'il avait laissé dans son cœur, se rendait en hâte avec Bob vers le théâtre d'une grande chasse aux rats dans une grange voisine. Bob savait tous les détails de cette affaire, et il en parlait avec un enthousiasme que personne, à moins d'être tout à fait dépourvu de sentiments virils ou pitoyablement ignorant de la chasse aux rats, ne manquera de comprendre. Pour un individu soupçonné de malice surnaturelle, Bob n'avait réellement point si mauvaise mine. Il y avait même quelque chose d'agréable dans son visage au nez camard, avec ses cheveux rouges rangés en boucles serrées. Mais aussi ses pantalons étaient toujours remontés et roulés jusqu'aux genoux, afin d'entrer plus commodément dans l'eau au moindre prétexte, et sa vertu, à supposer qu'elle existât, était indubitablement la vertu en guenille, laquelle, si l'on en croit certains philosophes moroses, qui pensent que tout mérite bien vêtu est toujours trop payé, pourrait souvent être mise en doute ou rester inconnue, peut-être parce qu'elle se rencontre si rarement. « Je connais l'individu à qui appartiennent les chiens furets, » dit Bob d'une voix rauque et basse, tout en marchant rapidement et tenant ses yeux bleus fixés sur la rivière, comme un amphibie qui prévoit l'occasion de s'y plonger. Il demeure dans la cour du canal à St. Ogg's, pour sûr. C'est le plus fameux preneur de rats qu'il y ait. J'aimerais mieux être un preneur de rats que quoi que ce soit, pour sûr. Les taupes ne sont rien à côté des rats. Mais ma foi, il faut avoir des furets. Les chiens ne valent rien. Tenez, voilà ce chien-là, continua Bob en indiquant Yap d'un air de dédain. Il vaut moins que rien avec un rat. Je l'ai vu moi-même, je l'ai bien vu, à la chasse aux rats dans la grange de votre père. Yap, comme sous l'influence flétrissante de ce mépris, rentra sa queue et se serra contre la jambe de Tom, qui se sentit un peu blessé pour lui, mais n'eut pas le courage surhumain de prendre contre Bob le parti d'un chien qui faisait une si triste figure. « Non, non, dit-il, Yap n'est pas bon pour ce genre d'amusement. J'aurai de véritables bons chiens pour les rats et pour tout, quand j'en aurai fini avec l'école. « Ayez des furets, maître Tom, dit Bob avec vivacité. De ces furets blancs avec les yeux rouges, ma foi. Vous prendriez vos propres rats et vous pourriez en mettre en cage avec un furet et les voir se battre, voilà. C'est ce que je voudrais faire, bien sûr, et ce serait plus amusant que de voir se battre deux individus. À moins que ce ne soit de ces garçons qui vendent des gâteaux et des oranges à la foire, comme j'en ai vu deux, tout volait de leur panier, et quelques-uns de leurs gâteaux étaient mis en pièces. Mais ils avaient tout aussi bon goût, ajouta Bob, en forme de post-scriptum, après un moment. Mais je dis, moi, Bob, reprit Tom d'un ton réfléchi, que les furets sont de vilains animaux qui mordent. Ils vous mordent un individu sans qu'on les lance sur lui. Parbleu, mais c'est ce qu'il y a de beau en eux. Si un drôle met la main sur votre furet, il ne sera pas longtemps avant d'avoir une bonne morsure, bien sûr. En cet instant, un incident remarquable fit arrêter les deux garçons dans leur promenade. C'était un petit corps plongeant dans l'eau au milieu des joncs environnants. Si ce n'était pas un rat d'eau, Bob consentait à passer par les circonstances les plus désagréables. « Ici, Yap, ici, le voilà !» dit Tom en frappant des mains. comme le petit museau noir se dirigeait en ligne droite vers la rive opposée. « Attrape-le, mon fils, attrape-le !» Yap secoua les oreilles et rida son front, mais refusa de plonger, pensant que des aboiements rempliraient aussi bien le but. « Ouf, le vilain lâche !» dit Tom en lui donnant un coup de pied, se sentant humilié comme chasseur de posséder un animal si peu courageux. Bob s'abstint de faire aucune remarque et continua son chemin, choisissant toutefois l'extrême bord de la rivière, alors très enflée. « Elle n'est pas si grosse à présent, la flosse, » dit Bob en agitant du pied l'eau de la rivière avec un agréable sentiment d'insolence à son égard. L'année passée, les prairies ne faisaient qu'une seule nappe d'eau. « Mais, » dit Tom, dont l'esprit était porté à voir de l'opposition entre des assertions qui s'accordaient réellement tout à fait, « mais il y a eu une fois une grande inondation quand l'étang rond s'est formé. Je le sais parce que mon père me l'a dit. Et les moutons et les vaches furent tous noyés. » Et les bateaux s'en allaient par-dessus les champs d'une fameuse manière. « Je ne m'inquiète pas qu'il vienne une inondation, » dit Bob. « Je ne m'inquiète pas plus de l'eau que de la terre. Je nagerai, bien sûr. »« Oui, mais si vous n'aviez rien à manger pendant longtemps, » dit Tom, dont l'imagination devint tout à fait active sous le stimulant de cette crainte. « Quand je serai homme, je ferai un bateau avec une maison de bois dessus, comme l'arche de Noé, et j'y mettrai une bonne quantité de vivres, des lapins et d'autres choses, toutes prêtes. » Et alors, s'il vient une inondation, vous savez, Bob, je ne m'en inquiéterai pas. Et je vous y recevrai si je vous vois nager, ajouta-t-il d'un ton de bienveillante protection. Je n'aurai pas peur, dit Bob, à qui la faim ne paraissait pas si effrayante. Mais j'entrerai et je frapperai les lapins sur la tête quand vous aurez envie de les manger. Puis j'aurai des demi-pence et nous jurions à croix ou pile, dit Tom, ne pensant pas que cette récréation dût avoir moins de charme dans son âge mûr. Je tirerai au sort de bonne foi pour savoir qui commencerait, et alors nous verrions qui gagnerait. « J'ai un demi-penny à moi, » dit Bob fièrement, sortant de l'eau et lançant en l'air son demi-penny, « pile ou face ?»« Pile, » dit Tom, immédiatement enflammé du désir de gagner. « C'est face, » dit Bob promptement, enlevant le demi-penny à peine tombé. « Non, ça ne l'était pas, » dit Tom d'un ton haut et décidé. « Donnez-moi le demi-penny, je l'ai loyalement gagné. » « Non, » dit Bob, le tenant serré dans sa poche. « Je vous le ferai bien donner, alors, » dit Tom. « Vous ne pouvez rien me faire faire, » dit Bob. « Si, je le puis. »« Non, vous ne le pouvez pas. Je suis le maître. Je m'en moque. Je vous y forcerai bien, tricheur, » dit Tom en colletant Bob et le secouant. « Laissez-moi tranquille, » dit Bob, en donnant à Tom un coup de pied. Le sang de Tom ne fit qu'un tour. Il s'élança sur Bob et le renversa. Mais Bob s'accrocha à Tom et s'y cramponnant comme un chat, le fit tomber avec lui. Ils luttèrent fièrement à terre pendant quelques instants, jusqu'à ce que Tom, retenant Bob à terre par les épaules, pût en être maître. « Dites que vous me donnerez le demi-penny à présent, » dit-il avec difficulté, en s'efforçant de priver Bob de l'usage de ses bras. Mais en ce moment, Yap, qui avait couru en avant, revint en aboyant sur le lieu de l'action et vit une occasion favorable de mordre les jambes nues de Bob, non seulement avec impunité, mais avec honneur. La douleur de cette morsure inattendue, au lieu de faire lâcher prise à Bob, lui donna plus de ténacité, et avec un nouvel effort, il poussa Tom de côté et reprit le dessus. Mais alors Yap, qui ne savait où s'attaquer, planta ses dents dans un nouvel endroit, en sorte que Bob, maltraité de cette manière, lâcha Tom et, étranglant presque Yap, le jeta dans la rivière. Mais cette fois Tom se releva, et avant que Bob, après avoir lancé Yap, eût retrouvé son équilibre, il lui tomba dessus, le coucha par terre et tint fortement les genoux sur sa poitrine. « Donnez-moi le demi-penny à présent, » dit Tom. « Prenez-le, » dit Bob en rechignant. « Non, je ne le prendrai pas. Donnez-le-moi, vous !» Bob sortit la pièce de sa poche et la jeta loin de lui par terre. Tom, le lâchant, le laissa se relever. « Votre demi-penny est là, » dit-il par terre. « Je n'ai pas besoin de votre argent. Mais vous avez voulu me tricher. Je déteste un tricheur. Je n'irai plus jamais avec vous, » ajouta-t-il en se retournant du côté de la maison, non sans un regret pour la chasse aux rats et autres plaisirs auxquels il fallait renoncer en même temps que la société de Bob. « Vous pouvez le laisser, alors, » cria Bob après lui. « Je tricherai si ça me plaît. Il n'y a point de plaisir à jouer sans ça. et je sais où il y a un nid de chardonnerets, mais j'aurai soin que vous ne... Et vous n'êtes qu'un mauvais dindon de combat, vous êtes... » Tom marcha sans se retourner, et Yap suivit son exemple, le bain froid ayant calmé ses passions. « Allez-vous-en donc avec votre chien noyé. Je ne voudrais pas d'un tel chien. Je n'en voudrais pas, » dit Bob, en élevant toujours plus la voix, dans un dernier effort pour maintenir son défi. Mais il ne put provoquer Tom à se retourner. Et la voix de Bob commença à baisser un peu en disant « C'est moi qui vous ai tout indiqué, et je vous ai tout montré, et je ne vous ai jamais rien demandé. Et voilà votre couteau à manche de corne que vous m'avez donné. » Ici, Bob lança le couteau aussi loin qu'il le put après Tom. Mais cela ne produisit aucun effet, excepté le sentiment dans l'esprit de Bob qu'il y avait un terrible vide dans son sort, maintenant que le couteau était lâché. Il resta tranquille jusqu'à ce que Tom fût rentré dans le clos et eût disparu derrière les haies. Le couteau ne servirait à rien en restant par terre. Cela ne vexerait pas Tom. La fierté et le ressentiment étaient des passions bien faibles dans l'esprit de Bob, comparées à l'amour d'un couteau de poche. Ses doigts eux-mêmes se remuaient pour le supplier d'aller saisir ce grossier manche de corne de cerf qui leur était familier, qu'ils avaient souvent serré par pure affection quand il était oisif dans la poche. Il y avait deux lames. Elles venaient d'être aiguisées. Que serait la vie sans un couteau de poche, pour celui qui avait une fois goûté une existence plus relevée? Non, jeter le manche après la cognée est un acte de désespoir qui se comprend. Mais jeter son couteau de poche après un ennemi implacable est clairement, de toute manière, une exagération qui dépasse le but. Bob retourna donc à l'endroit où le couteau bien-aimé gisait dans la boue et trouva un plaisir nouveau à le ressaisir après une séparation momentanée. Il ouvrit une lame après l'autre et en essaya le tranchant sur son pouce bien endurci. Pauvre Bob, il n'était pas très sensible sur le point d'honneur. Ce n'était pas un caractère chevaleresque. Ce fin parfum moral n'aurait pas été fort apprécié par l'opinion publique de la cour du canal, qui était le vrai centre du monde de Bob. Cependant, malgré tout cela, ce n'était point un chenapan ou un voleur, comme notre ami Tom l'avait déclaré un peu à la légère. Mais Tom, vous le voyez, était plutôt un personnage radamantesque, ayant plus que sa part ordinaire du sentiment de justice inné au garçon. La justice qui veut frapper les coupables autant qu'ils le méritent, et qui n'hésite jamais sur la mesure juste à donner à la punition. Maggie vit un nuage sur le front de son frère quand il rentra, ce qui diminua sa joie de le voir revenir beaucoup plus tôt qu'elle ne s'y attendait, et elle osa à peine lui parler, tandis qu'il s'occupait à jeter de petites pierres de gravier dans le canal du moulin. Ce n'est pas agréable de renoncer à une chasse aux rats sur laquelle on comptait. Mais si Tom avait avoué son principal sentiment dans ce moment, il aurait dit « Je ferais exactement de même si c'était à refaire. » C'était sa manière habituelle d'envisager ses actions passées, tandis que Maggie aurait toujours voulu s'être conduite différemment.